Nous rentrions toujours de bonne heure de nos promenades pour pouvoir faire une visite à ma tante Léonie avant le dîner. Au commencement de la saison, où le jour finit tôt, quand nous arrivions rue du Saint-Esprit, il y avait encore un reflet du couchant sur les vitres de la maison et un bandeau de pourpre au fond des bois du calvaire qui se reflétait plus loin dans l'étang. Rougeur qui, accompagnée souvent d'un froid assez vif, s'associait dans mon esprit à la rougeur du feu au-dessus duquel rôtissait le poulet qui ferait succéder pour moi au plaisir poétique donné par la promenade, le plaisir de la gourmandise, de la chaleur et du repos. Dans l'été, au contraire, quand nous rentrions, le soleil ne se couchait pas encore, et pendant la visite que nous faisions chez ma tante Léonie, sa lumière qui s'abaissait et touchait la fenêtre était arrêtée entre les grands rideaux et les embrasses, divisée, ramifiée, filtrée, et incrustant de petits morceaux d'or le bois de citronnier de la commode, illuminait obliquement la chambre avec la délicatesse qu'elle prend dans les sous-bois. Mais certains jours, fort rares, quand nous rentrions, il y avait bien longtemps que la commode avait perdu ses incrustations momentanées. Il n'y avait plus, quand nous arrivions rue du Saint-Esprit, nul reflet de couchant étendu sur les vitres, et l'étang au pied du calvaire avait perdu sa rougeur. Quelquefois il était déjà couleur d'opale, et un long rayon de lune qui allait en s'élargissant et se fendillait de toutes les rides de l'eau, le traversait tout entier. Alors, en arrivant près de la maison, nous apercevions une forme sur le pas de la porte, et maman me disait « Mon Dieu, voilà Françoise qui nous guette, ta tante est inquiète. Aussi nous rentrons trop tard. » Et sans avoir pris le temps d'enlever nos affaires, nous montions vite chez ma tante Léonie pour la rassurer et lui montrer que, contrairement à ce qu'elle imaginait déjà, il ne nous était rien arrivé, mais que nous étions allés du côté de Guermantes. Et dame, quand on faisait cette promenade-là, ma tante savait pourtant bien qu'on ne pouvait jamais être sûr de l'heure à laquelle on serait rentré. « Là, Françoise, disait ma tante, quand je vous disais qu'il serait allé du côté de Guermantes, mon Dieu, ils doivent avoir une faim, et votre gigot qui doit être tout desséché après ce qu'il a attendu. Aussi est-ce une heure pour rentrer ? Comment vous êtes allé du côté de Guermantes ? Mais je croyais que vous le saviez, Léonie, disait maman. Je pensais que Françoise nous avait vu sortir par la petite porte du potager. Car il y avait autour de Combray deux côtés pour les promenades, et si opposés qu'on ne sortait pas en effet de chez nous par la même porte quand on voulait aller d'un côté ou de l'autre. Le côté de mes églises lavineuses, qu'on appelait aussi le côté de chez Swann, parce qu'on passait devant la propriété de M. Swann pour aller par là, et le côté de Guermantes. De mes églises lavineuses, à vrai dire, je n'ai jamais connu que le côté, et des gens étrangers qui venaient le dimanche se promener à Combray, des gens que cette fois ma tante elle-même et nous tous ne connaissions point, et qu'à ce signe on tenait pour des gens qui seront venus de mes églises. Quant à Guermantes, je devais un jour en connaître davantage, mais bien plus tard seulement. Et pendant toute mon adolescence, si mes églises étaient pour moi quelque chose d'inaccessible, comme l'horizon, dérobé à la vue, si loin qu'on alla par les plis d'un terrain qui ne ressemblait déjà plus à celui de Combray, Guermantes, lui, ne m'est apparu que comme le terme plutôt idéal que réel de son propre côté. Une sorte d'expression géographique abstraite, comme la ligne de l'équateur, comme le pôle, comme l'Orient. Alors prendre par Guermantes pour aller à mes églises, ou le contraire, m'eût semblé une expression aussi dénuée de sens que prendre par l'Est pour aller à l'Ouest. Comme mon père parlait toujours du côté de mes églises comme de la plus belle vue de plaine qu'il connût, et du côté de Guermantes comme du type de paysage de rivière, je leur donnais, en les concevant ainsi comme deux entités, cette cohésion, cette unité, qui n'appartiennent qu'aux créations de notre esprit. La moindre parcelle de chacun d'eux me semblait précieuse et manifestait leur excellence particulière. Tandis qu'à côté d'eux, avant qu'on fût arrivé sur le sol sacré de l'un ou de l'autre, les chemins purement matériels au milieu desquels ils étaient posés comme l'idéal de la vue de plaine et l'idéal du paysage de rivière, ne valaient pas plus la peine d'être regardés que par le spectateur épris d'art dramatique les petites rues qui avoisinent un théâtre. Mais surtout, je mettais entre eux bien plus que leur distance kilométrique, la distance qu'il y avait entre les deux parties de mon cerveau où je pensais à eux. Une de ces distances dans l'esprit qui ne font pas qu'éloigner, qui séparent et mettent dans un autre plan. Et cette démarcation était rendue plus absolue encore parce que cette habitude que nous avions de n'aller jamais vers les deux côtés un même jour, dans une seule promenade, mais une fois du côté de mes églises, une fois du côté de Guermantes, les enfermait pour ainsi dire, loin l'un de l'autre, inconnaissables l'un à l'autre, dans les vases clos et sans communication entre eux, d'après-midi différents. Quand on voulait aller du côté de mes églises, on sortait, pas trop tôt, et même si le ciel était couvert, parce que la promenade n'était pas bien longue et n'entraînait pas trop, comme pour aller n'importe où par la grande porte de la maison de ma tante sur la rue du Saint-Esprit. On était salué par l'armurier, on jetait ses lettres à la boîte, on disait en passant à Théodore de la part de Françoise qu'elle n'avait plus d'huile ou de café, et l'on sortait de la ville par le chemin qui passait le long de la barrière blanche du parc de M. Swann. Avant d'y arriver, nous rencontrions, venus au-devant des étrangers, l'odeur de ces lilas. Eux-mêmes, d'entre les petits cœurs verts et frais de leurs feuilles, levaient curieusement au-dessus de la barrière du parc leur panache de plumes mauves ou blanches, que lustrait même à l'ombre le soleil où elles avaient baigné. Quelques-uns à demi cachés par la petite maison en tuiles appelée maison des archers où logeait le gardien, dépassaient son pignon gothique de leur rose minaret. Les nymphes du printemps eussent semblé vulgaires auprès de ces jeunes houris qui gardaient dans ce jardin français les tons vifs et purs des miniatures de la Perse. Malgré mon désir d'enlacer leur taille souple et d'attirer à moi les boucles étoilées de leur tête odorante, nous passions sans nous arrêter, mes parents n'allant plus à Tansonville puis le mariage de Swann, et pour ne pas avoir l'air de regarder dans le parc, au lieu de prendre le chemin qui longe sa clôture et qui monte directement au champ, nous en prenions un autre qui y conduit aussi mais obliquement et nous faisait déboucher trop loin. Un jour mon grand-père dit à mon père, « Vous rappelez-vous que Swann a dit hier que comme sa femme et sa fille partaient pour Reims, il en profiterait pour aller passer 24 heures à Paris. Nous pourrions longer le parc, puisque ces dames ne sont pas là. Cela nous abrégerait d'autant. » Nous nous arrêtâmes un moment devant la barrière. Le temps des lilas approchait de sa fin. Quelques-uns effusaient encore en haut lustre mauve les bulles délicates de leurs fleurs. Mais dans bien des parties du feuillage où des ferlets il y avait seulement une semaine, leur mousse embaumée se flétrissait, diminuait et noircit, une écume creuse, sèche et sans parfum. Mon grand-père montrait à mon père en quoi l'aspect des lieux était resté le même et en quoi il avait changé depuis la promenade qu'il avait faite avec M. Swann le jour de la mort de sa femme. Et il saisit cette occasion pour raconter cette promenade une fois de plus. Devant nous, une allée bordée de capucines montait en plein soleil vers le château. À droite, au contraire, le parc s'étendait en terrain plat. Obscurci par l'ombre des grands arbres qui l'entouraient, une pièce d'eau avait été creusée par les parents de Swann. Mais dans ses créations les plus factices, c'est sur la nature que l'homme travaille. Certains lieux font toujours régner autour d'eux leur empire particulier, arborent leurs insignes immémoriaux au milieu d'un parc comme ils auraient fait, loin de toute intervention humaine, dans une solitude qui revient par tous les entourés, surgit des nécessités de leur exposition et superposée à l'œuvre humaine. C'est ainsi qu'au pied de l'allée qui dominait l'étang artificiel, s'était composé sur deux rangs, tressés de fleurs de myosotis et de pervenche, la couronne naturelle, délicate et bleue, qui ceint le front clair-obscur des eaux, et que le glaïeul, laissant fléchir ses glaives avec un abandon royal, étendait sur le patoir et la grenouillette aux pieds mouillés, les fleurs de lys en lambeaux, violettes et jaunes, de son sceptre lacustre. Le départ de Mademoiselle Swann, qui, en m'ôtant la chance terrible de la voir apparaître dans une allée, d'être connue et méprisée par la petite fille privilégiée qui avait Bergotte pour ami et allait avec lui visiter des cathédrales, me rendait la contemplation de Tansonville indifférente la première fois où elle m'était permise, semblait au contraire ajouter à cette propriété, aux yeux de mon grand-père et de mon père, des commodités, un agrément passager, et comme fait pour une excursion en pays de montagne l'absence de tout nuage, rendre cette journée exceptionnellement propice à une promenade de ce côté. J'aurais voulu que leurs calculs fussent déjoués, qu'un miracle fît apparaître Mademoiselle Swann avec son père si près de nous que nous n'aurions pas le temps de l'éviter et serions obligés de faire sa connaissance. Aussi quand tout d'un coup, j'aperçus sur l'herbe, comme un signe de sa présence possible, un couffin oublié à côté d'une ligne dont le bouchon flottait sur l'eau, je m'empressai de détourner d'un autre côté les regards de mon père et de mon grand-père. D'ailleurs, Swann nous ayant dit que c'était mal à lui de s'absenter, car il avait pour le moment de la famille à demeure, la ligne pouvait appartenir à quelque invité. On n'entendait aucun bruit de pas dans les allées. Divisant la hauteur d'un arbre incertain, un invisible oiseau s'ingéniant à faire trouver la journée courte, explorait d'une note prolongée la solitude environnante, mais il recevait d'elle une réplique si unanime, un choc en retour si redoublé de silence et d'immobilité, qu'on aurait dit qu'il venait d'arrêter pour toujours l'instant qu'il avait cherché à faire passer plus vite. La lumière tombait si implacable du ciel devenu fixe que l'on aurait voulu se soustraire à son attention. Et l'eau dormante elle-même, dont les insectes irritaient perpétuellement le sommeil, rêvant sans doute de quelque maelstrom imaginaire, augmentait le trouble où m'avait jeté la vue du flotteur de liège, en semblant l'entraîner à toute vitesse sur les étendues silencieuses du ciel reflété. Presque vertical, il paraissait prêt à plonger, et déjà je me demandais si, sans tenir compte du désir et de la crainte que j'avais de la connaître, je n'avais pas le devoir de faire prévenir Mademoiselle Swann que le poisson mordait. Quand il me fallut rejoindre en courant mon père et mon grand-père, qui m'appelaient, étonné que je ne les eusse pas suivis dans le petit chemin qui monte vers les champs et où ils s'étaient engagés. Je le trouvai tout bourdonnant de l'odeur des aubépines. La haie formée comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs fleurs amoncelées en reposoir. Au-dessous d'elle, le soleil posait à terre un quadrillage de clarté comme s'il venait de traverser une verrière. Leur parfum s'étendait aussi onctueux, aussi délimité en sa forme que si j'eusse été devant l'autel de la Vierge, et les fleurs aussi parées tenaient chacune d'un air distrait son étincelant bouquet d'étamines, fine et rayonnante nervure de style flamboyant comme celle qui, à l'église, ajourait la rampe du jubé ou les meneaux du vitrail, et qui s'épanouissait en blanche chair de fleurs de fraisier. Combien naïve et paysanne, en comparaison, sembleraient les églantines qui, dans quelques semaines, montraient elles aussi en plein soleil le même chemin rustique, en la soie unie de leur corsage rougissant, qu'un souffle des fées. Mais j'avais beau rester devant les aubépines, à respirer, à porter devant ma pensée qui ne savait ce qu'elle devait en faire, à perdre, à retrouver leur invisible et fixe odeur, à munir, au rythme qui jetait leurs fleurs, ici et là, avec une allégresse juvénile et à des intervalles inattendus, comme certains intervalles musicaux, elle m'offrait indéfiniment le même charme, avec une profusion inépuisable, mais sans me laisser approfondir davantage, comme ces mélodies qu'on rejoue 100 fois de suite, sans descendre plus avant dans leurs secrets. Je me détournais d'elle un moment pour les aborder ensuite avec des forces plus fraîches. Je poursuivais jusque sur le talus qui, derrière la haie, montait en pente raide vers les champs, quelques coquelicots perdus, quelques bluets restés paresseusement en arrière, qui le décoraient çà et là de leurs fleurs comme la bordure d'une tapisserie où apparaît clairsemé le motif agreste qui triomphera sur le panneau. Rares encore, espacés comme les maisons isolées qui annoncent déjà l'approche d'un village, ils m'annonçaient l'immense étendue où déferlent les blés, où moutonnent les nuages, et la vue d'un seul coquelicot hissant au bout de son cordage et faisant cingler au vent sa flamme rouge, au-dessus de sa bouée graisseuse et noire, me faisait battre le cœur, comme au voyageur qui aperçoit sur une terre basse une première barque échouée que répare un calfat, et s'écrie, avant de l'avoir encore vue, « La mer !» Puis je revenais devant les aubépines, comme devant ces chefs-d'œuvre, dont on croit qu'on saura mieux les voir quand on a cessé un moment de les regarder. Mais j'avais beau me faire un écran de mes mains pour n'avoir qu'elles sous les yeux, le sentiment qu'elles éveillaient en moi restait obscur et vague, cherchant en vain à se dégager, à venir adhérer à leurs fleurs. Elles ne m'aidaient pas à l'éclaircir, et je ne pouvais demander à d'autres fleurs de le satisfaire. Alors, me donnant cette joie que nous éprouvons quand nous voyons de notre peintre préféré une œuvre qui diffère de celle que nous connaissions, ou bien si l'on nous mène devant un tableau dont nous n'avions vu jusque-là qu'une esquisse au crayon, si un morceau, entendu seulement au piano, nous apparaît ensuite revêtu des couleurs de l'orchestre, mon grand-père, m'appelant et me désignant la haie de Tansonville, me dit « Toi qui aimes les aubépines, regarde un peu cette épine rose. Est-elle jolie ?» En effet, c'était une épine, mais rose, plus belle encore que les blanches. Elle aussi avait une parure de fête, de ces seules vraies fêtes que sont les fêtes religieuses, puisqu'un caprice contingent ne les applique pas comme les fêtes mondaines, un jour quelconque, qui ne leur est pas spécialement destiné, qui n'a rien d'essentiellement férié, mais une parure plus riche encore, car les fleurs attachées sur la branche, les unes au-dessus des autres, de manière à ne laisser aucune place qui ne fût décorée, comme des pompons qui enguirlandent une houlette rococo, étaient en couleur. Par conséquent, d'une qualité supérieure selon l'esthétique de Combray, si l'on en jugeait par l'échelle des prix, dans le magasin de la place, ou chez Camus, où étaient plus chers ceux des biscuits qui étaient roses. Moi-même, j'appréciais plus le fromage à la crème rose, celui où l'on m'avait permis d'écraser des fraises. Et justement, ces fleurs avaient choisi une de ces teintes de choses mangeables, ou de tendre embellissement à une toilette pour une grande fête, qui, parce qu'elle leur présente la raison de leur supériorité, sont celles qui semblent belles, avec le plus d'évidence, aux yeux des enfants. Et à cause de cela, gardent toujours pour eux quelque chose de plus vif et de plus naturel que les autres teintes, même lorsqu'ils ont compris qu'elles ne promettaient rien à leur gourmandise et n'avaient pas été choisies par la couturière. Et certes, je l'avais tout de suite senti, comme devant les épines blanches, mais avec plus d'émerveillement, que ce n'était pas facticement, par un artifice de fabrication humaine, qu'était traduite l'intention de festivité dans les fleurs, mais que c'était la nature qui, spontanément, l'avait exprimée, avec la naïveté d'une commerçante de village travaillant pour un reposoir, en surchargeant l'arbuste de ses rosettes d'un ton trop tendre et d'un pompadour provincial. Au haut des branches, comme autant de ces petits rosiers aux pots cachés dans des papiers en dentelle, dont aux grandes fêtes on faisait rayonner sur l'autel les minces fusées, pullulaient 1000 petits boutons d'une teinte plus pâle, qui, en s'entr'ouvrant, laissaient voir, comme au fond d'une coupe de marbre rose, de rouge sanguine, et trahissait plus encore que les fleurs l'essence particulière, irrésistible, de l'épine, qui, partout où elle bourgeonnait, où elle allait fleurir, ne le pouvait qu'en rose. Intercalé dans la haie, mais aussi différent d'elle qu'une jeune fille en robe de fête au milieu de personnes en négligé qui resteront à la maison, tout prêt pour le moine Marie, dont il semblait faire partie déjà, tel brillait en souriant dans sa fraîche toilette rose, l'arbuste catholique est délicieux. La haie laissait voir à l'intérieur du parc une allée bordée de jasmin, de pensées et de verveine, entre lesquelles des giroflées ouvraient leurs bourses fraîches, du rose odorant et passé d'un cuir ancien de Cordoue, tandis que sur le gravier un long tuyau d'arrosage peint en vert, déroulant ses circuits, dressé au point où il était percé au-dessus des fleurs dont il imbibait les parfums, l'éventail vertical et prismatique de ses gouttelettes multicolore. Tout à coup, je m'arrêtai. Je ne pus plus bouger, comme il arrive quand une vision ne s'adresse pas seulement à nos regards, mais requiert des perceptions plus profondes et dispose de notre être tout entier. Une fillette d'un blond roux, qui avait l'air de rentrer de promenade et tenait à la main une bêche de jardinage, nous regardait, levant son visage semé de taches roses. Ses yeux noirs brillaient, et comme je ne savais pas alors, ni ne l'ai appris depuis, réduire en ces éléments objectifs une impression forte, comme je n'avais pas, ainsi qu'on dit, assez d'esprit d'observation pour dégager la notion de leur couleur, pendant longtemps, chaque fois que je repensais à elle, le souvenir de leur éclat se présentait aussitôt à moi comme celui d'un vif azur, puisqu'elle était blonde. De sorte que peut-être, si elle n'avait pas eu des yeux aussi noirs, ce qui frappait tant la première fois qu'on la voyait, je n'aurais pas été, comme je le fus, plus particulièrement amoureux en elle, de ses yeux bleus. Je la regardai, d'abord de ce regard qui n'est pas que le porte-parole des yeux, mais à la fenêtre duquel se penchent tous les sens, anxieux et pétrifiés. Le regard qui voudrait toucher, capturer, emmener le corps qu'il regarde, et l'âme avec lui. Puis tant j'avais peur que, d'une seconde à l'autre, mon grand-père et mon père, apercevant cette jeune fille, me fissent éloigner en me disant de courir un peu devant eux, d'un second regard, inconsciemment supplicateur, qui tâchait de la forcer à faire attention à moi, à me connaître. Elle jeta en avant et de côté ses pupilles, pour prendre connaissance de mon grand-père et de mon père, et sans doute l'idée qu'elle en rapporta fut celle que nous étions ridicules, car elle se détourna et, d'un air indifférent et dédaigneux, se plaça de côté pour épargner à son visage d'être dans leur champ visuel. Et tandis que, continuant à marcher et ne l'ayant pas aperçu, il m'avait dépassé, elle laissa ses regards filer de toute leur longueur dans ma direction, sans expression particulière, sans avoir l'air de me voir, mais avec une fixité et un sourire dissimulé, que je ne pouvais interpréter d'après les notions que l'on m'avait données sur la bonne éducation, que comme une preuve d'outrageant mépris. Et sa main esquissait en même temps un geste indécent, auquel, quand il était adressé en public à une personne qu'on ne connaissait pas, le petit dictionnaire de civilité que je portais en moi ne donnait qu'un seul sens, celui d'une intention insolente. « Allons, Gilberte, viens, qu'est-ce que tu fais ?» cria d'une voix perçante et autoritaire une dame en blanc que je n'avais pas vue, et à quelque distance de laquelle un monsieur habillé de coutil et que je ne connaissais pas fixait sur moi des yeux qui lui sortaient de la tête. Et cessant brusquement de sourire, la jeune fille prit sa bêche et s'éloigna sans se retourner de mon côté, d'un air docile, impénétrable et sournois. Ainsi passa près de moi ce nom de Gilberte, donné comme un talisman qui me permettrait peut-être de retrouver un jour celle dont il venait de faire une personne, et qui l'instant d'avant n'était qu'une image incertaine. Ainsi passa-t-il, proférée au-dessus des jasmins et des giroflées, aigre et frais comme les gouttes de l'arrosoir vert, imprégnant, irisant la zone d'air pur qu'il avait traversée et qu'il isolait, du mystère de la vie de celle qu'il désignait pour les êtres heureux qui vivaient, qui voyageaient avec elle, déployant sous les pignées roses, à hauteur de mon épaule, la quintessence de leur familiarité, pour moi si douloureuse, avec elle, avec l'inconnu de sa vie, où je n'entrerai pas. Un instant, tandis que nous nous éloignions et que mon grand-père murmurait « Ce pauvre Swann, quel rôle ils lui font jouer !» On le fait partir pour qu'elle reste seule avec son Charlus, car c'est lui, je l'ai reconnu, et cette petite mêlée à toute cette infamie. L'impression laissée en moi par le ton despotique avec lequel la mère de Gilberte lui avait parlé sans qu'elle répliquât, en me la montrant comme forcée d'obéir à quelqu'un, comme n'étant pas supérieure à tout, calma un peu ma souffrance, me rendit quelque espoir et diminua mon amour. Mais bien vite cet amour s'éleva de nouveau en moi comme une réaction par quoi mon cœur humilié voulait se mettre de niveau avec Gilberte ou la baisser jusqu'à lui. Je l'aimais, je regrettais de ne pas avoir eu le temps et l'inspiration de l'offenser, de lui faire mal et de la forcer à se souvenir de moi. Je la trouvais si belle que j'aurais voulu pouvoir revenir sur mes pas pour lui crier en haussant les épaules « Comme je vous trouve laide, grotesque, comme vous me répugniez !» Cependant, je m'éloignais en portant pour toujours comme premier type d'un bonheur inaccessible aux enfants de mon espèce de par des lois naturelles impossibles à transgresser, l'image d'une petite fille rousse à la peau semée de taches roses qui tenait une bêche et qui riait en laissant filer sur moi de longs regards sournois et inexpressifs. Et déjà le charme dont son nom avait encensé cette place sous les épines roses, où il avait été entendu ensemble par elle et par moi, allait gagner, enduire, embaumer tout ce qui l'approchait. Ses grands-parents, que les miens avaient eu l'ineffable bonheur de connaître, la sublime profession d'agent de change, le douloureux quartier des Champs-Élysées, qu'elle habitait à Paris. « Léonie, dit mon grand-père en rentrant, j'aurais voulu t'avoir avec nous tantôt. Tu ne reconnaîtrais pas tant son ville. Si j'avais osé, je t'aurais coupé une branche de ces épines roses que tu aimais tant. » Mon grand-père racontait ainsi notre promenade à ma tante Léonie, soit pour la distraire, soit qu'on n'eût pas perdu tout espoir d'arriver à la faire sortir. Or, elle aimait beaucoup autrefois cette propriété, et d'ailleurs les visites de Swann avaient été les dernières qu'elle avait reçues, alors qu'elle fermait déjà sa porte à tout le monde. Et de même, quand il venait maintenant prendre de ses nouvelles, elle était la seule personne de chez nous qu'il demanda encore à voir, elle lui faisait répondre qu'elle était fatiguée, mais qu'elle le laisserait entrer la prochaine fois. De même, elle dit ce soir-là, « Oui, un jour qu'il fera beau, j'irai en voiture jusqu'à la porte du parc. » C'est sincèrement qu'elle le disait. Elle eût aimé revoir Swann étant son ville, mais le désir qu'elle en avait suffisait à ce qui lui restait de force. Sa réalisation les eût excédés. Quelquefois le beau temps lui rendait un peu de vigueur, elle se levait, s'habillait. La fatigue commençait avant qu'elle fût passée dans l'autre chambre, et elle réclamait son lit. Ce qui avait commencé pour elle, plutôt seulement que cela n'arrive d'habitude, c'est ce grand renoncement de la vieillesse qui se prépare à la mort, s'enveloppe dans sa chrysalide, et qu'on peut observer à la fin des vies qui se prolongent tard, même entre les anciens amants qui se sont le plus aimés, entre les amis unis par les liens les plus spirituels, et qui, à partir d'une certaine année, cessent de faire le voyage ou la sortie nécessaire pour se voir, cessent de s'écrire, et savent qu'ils ne communiqueront plus en ce monde. Ma tante devait parfaitement savoir qu'elle ne reverrait pas Swann, qu'elle ne quitterait plus jamais la maison. Mais cette réclusion définitive devait lui être rendue assez aisée pour la raison même qui, selon nous, aurait dû la lui rendre plus douloureuse, c'est que cette réclusion lui était imposée par la diminution qu'elle pouvait constater chaque jour dans ses forces, et qui, en faisant de chaque action, de chaque mouvement, une fatigue, sinon une souffrance, donnée pour elle à l'inaction, à l'isolement, au silence, la douceur réparatrice est bénie du repos. Ma tante n'alla pas voir la haie d'épines roses, mais à tout moment je demandais à mes parents si elle n'irait pas, si autrefois elle allait souvent à Tansonville, tâchant de les faire parler des parents et grands-parents de Mademoiselle Swann, qui me semblait grand comme des dieux. Ce nom, devenu pour moi presque mythologique, de Swann, quand je causais avec mes parents, je languissais du besoin de le leur entendre dire. Je n'osais pas le prononcer moi-même, mais je les entraînais sur des sujets qui avoisinaient Gilberte et sa famille, qui la concernaient, où je ne me sentais pas exilé trop loin d'elle. Et je contraignais tout d'un coup mon père, en feignant de croire par exemple que la charge de mon grand-père avait été déjà avant lui dans notre famille, ou que la haie d'épines roses que voulait voir ma tante Léonie se trouvait en terrain communal, à rectifier mon assertion, à me dire, comme malgré moi, comme de lui-même, « Mais non, cette charge-là était au père de Swann. Cette haie fait partie du parc de Swann. » Alors j'étais obligé de reprendre ma respiration, tant en se posant sur la place où il était toujours écrit en moi, pesait à m'étouffer ce nom qui, au moment où je l'entendais, me paraissait plus plein que tout autre, parce qu'il était lourd de toutes les fois où, d'avance, je l'avais mentalement proféré. Il me causait un plaisir que j'étais confus d'avoir osé réclamer à mes parents, car ce plaisir était si grand qu'il avait dû exiger d'eux pour qu'ils me le procurassent beaucoup de peine, et sans compensation, puisqu'il n'était pas un plaisir pour eux. Aussi je détournais la conversation par discrétion, par scrupule aussi. Toutes les séductions singulières que je mettais dans ce nom de Swann, je les retrouvais en lui dès qu'il le prononçait. Il me semblait alors tout d'un coup que mes parents ne pouvaient pas ne pas les ressentir, qu'ils se trouvaient placés à mon point de vue, qu'ils apercevaient à leur tour, absolvés, épousés mes rêves. Et j'étais malheureux, comme si je les avais vaincus et dépravés. Cette année-là, quand un peu plus tôt que d'habitude mes parents eurent fixé le jour de rentrer à Paris, le matin du départ, comme on m'avait fait friser pour être photographié, coiffé avec précaution un chapeau que je n'avais encore jamais mis et revêtir une douillette de velours, après m'avoir cherché partout, ma mère me trouva en larmes dans le petit raidillon contigu à Tansonville, en train de dire adieu aux aubépines, entourant de mes bras les branches piquantes, et comme une princesse de tragédie à qui pèserait ses 20 ornements, ingrat envers l'importune main qui, en formant tous ses nœuds, avait pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux, foulant aux pieds mes papillotes arrachées et mon chapeau neuf. Ma mère ne fut pas touchée par mes larmes, mais elle ne put retenir un cri à la vue de la coiffe défoncée et de la douillette perdue. Je ne l'entendis pas. « Oh, mes pauvres petites aubépines, » disais-je en pleurant. « Ce n'est pas vous qui voudriez me faire du chagrin, me forcer à partir. Vous, vous ne m'avez jamais fait de peine. Aussi, je vous aimerai toujours. » Et, essuyant mes larmes, je leur promettais, quand je serai grand, de ne pas imiter la vie insensée des autres hommes. Et même à Paris, les jours de printemps, au lieu d'aller faire des visites et écouter des niaiseries, de partir dans la campagne, voir les premières aubépines. Une fois dans les champs, on ne les quittait plus pendant tout le reste de la promenade qu'on faisait du côté de mes églises. Ils étaient perpétuellement parcourus, comme par un cheminot invisible, par le vent qui était pour moi le génie particulier de Combray. Chaque année, le jour de notre arrivée, pour sentir que j'étais bien à Combray, je montais le retrouver qui courait dans les saillons et me faisait courir à sa suite. On avait toujours le vent à côté de soi, du côté de mes églises. Sur cette plaine bombée, où pendant des lieues, il ne rencontre aucun accident de terrain. Je savais que Mademoiselle Swann allait souvent à l'an passer quelques jours, et bien que ce fût à plusieurs lieues, la distance se trouvant compensée par l'absence de tout obstacle, quand par les choses après-midi je voyais un même souffle venu de l'extrême horizon, abaisser les blés les plus éloignés, se propager comme un flot sur toute l'immense étendue, et venir se coucher, murmurant et tiède, parmi les sainfoins et les trèfles, à mes pieds, cette plaine qui nous était commune à tous deux semblait nous rapprocher, nous unir. Je pensais que ce souffle avait passé auprès d'elle, que c'était quelque message d'elle qu'il me chuchotait sans que je puisse le comprendre, et je l'embrassai au passage. À gauche était un village qui s'appelait Champieu, Campus Pagny, selon le curé. Sur la droite, on apercevait par-delà les blés les deux clochers ciselés et rustiques de Saint-André-des-Champs, eux-mêmes effilés, écailleux, imbriqués d'alvéoles guillochés, jaunissants et grumeleux comme deux épis. À intervalles symétriques au milieu de l'inimitable ornementation de leurs feuilles, qu'on ne peut confondre avec la feuille d'aucun autre arbre fruitier, les pommiers ouvraient leurs larges pétales de satin blanc où suspendaient les timides bouquets de leurs rougissants boutons. C'est du côté de mes églises que j'ai remarqué pour la première fois l'ombre ronde que les pommiers font sur la terre ensoleillée et aussi ces soies d'or impalpables que le couchant tisse obliquement sous les feuilles et que je voyais mon père interrompre de sa canne sans les faire jamais dévier. Parfois dans le ciel de l'après-midi passait la lune, blanche comme une nuée, furtive, sans éclat, comme une actrice dont ce n'est pas l'heure de jouer et qui de la salle, en toilette de ville, regarde un moment ses camarades, ne voulant pas qu'on fasse attention à elle. J'aimais à retrouver son image dans des tableaux et dans des livres, mais ses œuvres d'art étaient bien différentes, du moins pendant les premières années, avant que Bloch eût accoutumé mes yeux et ma pensée à des harmonies plus subtiles, de celles où la lune me paraîtrait belle aujourd'hui et où je ne l'eusse pas reconnue alors. C'était par exemple quelques romans de Saint-Ine, un paysage de Glaire, où elle découpe nettement sur le ciel une faucille d'argent, de ses œuvres naïvement incomplètes, comme étaient mes propres impressions, et que les sœurs de ma grand-mère s'indignaient de me voir aimer. Elles pensaient qu'on doit mettre devant les enfants et qu'ils font preuve de goût en aimant d'abord les œuvres que, parvenues à la maturité, on admire définitivement. C'est sans doute qu'elles se figuraient les mérites esthétiques comme des objets matériels qu'un œil ouvert ne peut faire autrement que de percevoir, sans avoir eu besoin d'en mûrir lentement, des équivalents dans son propre cœur. C'est du côté de mes églises, à Montjouvain, maison située au bord d'une grande mare et adossée à un talus buissonneux, que demeurait M. Vinteuil. Aussi croisait-on souvent sur la route sa fille, conduisant un buggy à toute allure. À partir d'une certaine année, on ne la rencontra plus seule, mais avec une amie plus âgée, qui avait mauvaise réputation dans le pays, et qui un jour s'installa définitivement à Montjouvain. On disait, faut-il que ce pauvre M. Vinteuil soit aveuglé par la tendresse, pour ne pas s'apercevoir de ce qu'on raconte, et permette à sa fille, lui qui se scandalise d'une parole déplacée, de faire vivre sous son toit une femme pareille. Il dit que c'est une femme supérieure, un grand cœur, et qu'elle aurait eu des dispositions extraordinaires pour la musique si elle les avait cultivées. Il peut être sûr que ce n'est pas de musique qu'elle s'occupe avec sa fille. Monsieur Vinteuil le disait, et il est en effet remarquable combien une personne excite toujours d'admiration pour ses qualités morales chez les parents de toute autre personne avec qui elle a des relations charnelles. L'amour physique, si injustement décrié, force tellement tout être à manifester jusqu'aux moindres parcelles qu'il possède de bonté, d'abandon de soi, qu'elles resplendissent jusqu'aux yeux de l'entourage immédiat. Le docteur Percepied, à qui sa grosse voix et ses gros sourcils permettaient de tenir tant qu'il voulait le rôle de perfide, dont il n'avait pas le physique, sans compromettre en rien sa réputation inébranlable et imméritée de bourru bienfaisant, savait faire rire aux larmes le curé et tout le monde, en disant d'un ton rude « Eh bien, il paraît qu'elle fait de la musique avec son amie, mademoiselle Vinteuil. Ça a l'air de vous étonner. Moi, je sais pas, c'est le père Vinteuil qui m'a encore dit ça hier. Après tout, elle a bien le droit d'aimer la musique, cette fille. Moi, je ne puis pas contrarier les vocations artistiques des enfants. Vinteuil non plus, à ce qu'il paraît. Et puis lui aussi, il fait la musique avec l'ami de sa fille. À sa fristie, on en fait une musique dans cette boîte-là. Mais qu'est-ce que vous avez à rire? Mais ils font trop de musique, ces gens. L'autre jour, j'ai rencontré le père Vinteuil près du cimetière. Il ne tenait pas sur ses jambes. » Pour ceux qui, comme nous, virent à cette époque M. Vinteuil éviter les personnes qu'il connaissait, se détourner quand il les apercevait, vieillir en quelques mois, s'absorber dans un chagrin, devenir incapable de tout effort qui n'avait pas directement le bonheur de sa fille pour but, passer des journées entières devant la tombe de sa femme, il eût été difficile de ne pas comprendre qu'il était en train de mourir de chagrin, et de supposer qu'il ne se rendait pas compte des propos qui couraient. Il les connaissait, peut-être même y ajoutait-il foi. Il n'est peut-être pas une personne, si grande que soit sa vertu, que la complexité des circonstances ne puisse amener à vivre un jour dans la familiarité du vice qu'elle condamne le plus formellement, sans qu'elle le reconnaisse d'ailleurs tout à fait sous le déguisement de faits particuliers qu'il revêt pour entrer en contact avec elle et la faire souffrir. Paroles bizarres, attitude inexplicable un certain soir de tel être qu'elle a par ailleurs tant de raisons pour aimer. Mais pour un homme comme M. Vinteuil, il devait entrer bien plus de souffrance que pour un autre dans la résignation à une de ces situations qu'on croit à tort être l'apanage exclusif du monde de la bohème. Elles se produisent chaque fois qu'a besoin de se réserver la place et la sécurité qui lui sont nécessaires, un vice que la nature elle-même fait épanouir chez un enfant, parfois rien qu'en mêlant les vertus de son père et de sa mère, comme la couleur de ses yeux. Mais de ce que M. Vinteuil connaissait peut-être la conduite de sa fille, il ne s'ensuit pas que son culte pour elle en eût été diminué. Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Ils n'ont pas fait naître celles-ci, ils ne les détruisent pas. Ils peuvent leur infliger les plus constants démentis sans les affaiblir, et une avalanche de malheurs ou de maladies se succédant sans interruption dans une famille ne la fera pas douter de la bonté de son Dieu ou du talent de son médecin. Mais quand M. Vinteuil songeait à sa fille et à lui-même du point de vue du monde, du point de vue de leur réputation, quand il cherchait à se situer avec elle au rang qu'ils occupaient dans l'estime générale, alors ce jugement d'ordre social, il le portait exactement comme l'eût fait l'habitant de Combray qui lui eût été le plus hostile. Il se voyait avec sa fille dans le dernier bas-fond, et ses manières en avaient reçu depuis peu cette humilité, ce respect pour ceux qui se trouvaient au-dessus de lui et qu'il voyait d'en bas, eussent-ils été fort au-dessous de lui jusque-là, cette tendance à chercher à remonter jusqu'à eux qui est une résultante presque mécanique de toutes les déchéances. Un jour que nous marchions avec Swann dans une rue de Combray, M. Vinteuil, qui débouchait d'une autre, s'était trouvé trop brusquement en face de nous pour avoir le temps de nous éviter. Et Swann, avec cette orgueilleuse charité de l'homme du monde, qui, au milieu de la dissolution de tous ses préjugés moraux, ne trouve dans l'infamie d'autrui qu'une raison d'exercer envers lui une bienveillance dont les témoignages chatouillent d'autant plus l'amour-propre de celui qui les donne qu'il les sent plus précieux à celui qui les reçoit, avait longuement causé avec M. Vinteuil, à qui jusque-là il n'adressait pas la parole, et lui avait demandé, avant de nous quitter, s'il n'enverrait pas un jour sa fille jouait à Tansonville. C'était une invitation qui, il y a 2 ans, eût indigné M. Vinteuil, mais qui maintenant le remplissait de sentiments si reconnaissants qu'il se croyait obligé par eux de ne pas avoir l'indiscrétion de l'accepter. L'amabilité de Swann envers sa fille lui semblait être en soi-même un appui si honorable et si délicieux qu'il pensait qu'il valait peut-être mieux ne pas s'en servir pour avoir la douceur toute platonique de le conserver. « Quel homme est-ce qui, nous dit-il, quand Swann nous eut quittés, avec la même enthousiaste vénération qui tient de spirituelles et jolies bourgeoises en respect, et sous le charme d'une duchesse, fut-elle laide et sotte. Quel homme est-ce qui ? Quel malheur qu'il ait fait un mariage tout à fait déplacé. Et alors, tant les gens les plus sincères sont mêlés d'hypocrisie et dépouillent en causant avec une personne l'opinion qu'ils ont d'elle et expriment dès qu'elle n'est plus là. Mes parents déplorèrent avec M. Vinteuil le mariage de Swann, au nom de principes et de convenances, auxquels par cela même qu'il les invoquait en commun avec lui, en braves gens de même acabit, ils avaient l'air de sous-entendre qu'ils n'étaient pas contrevenus à Montjouvain. M. Vinteuil n'envoya pas sa fille chez Swann, et celui-ci fut le premier à le regretter, car chaque fois qu'il venait de quitter M. Vinteuil, il se rappelait qu'il avait depuis quelque temps un renseignement à lui demander sur quelqu'un qui portait le même nom que lui, un de ses parents, croyait-il. Et cette fois-là, il s'était bien promis de ne pas oublier ce qu'il avait à lui dire quand M. Vinteuil enverrait sa fille à Tansonville. Comme la promenade du côté de mes églises était la moins longue des deux que nous faisions autour de Combray, et qu'à cause de cela on la réservait pour les temps incertains, le climat du côté de mes églises était assez pluvieux, et nous ne perdions jamais de vue la lisière des bois de Roussainville, dans l'épaisseur desquels nous pourrions nous mettre à couvert. Souvent le soleil se cachait derrière une nuée qui déformait son ovale et dont jaunissait la bordure. L'éclat, mais non la clarté, était enlevé à la campagne où toute vie semblait suspendue, tandis que le petit village de Roussainville, sculpté sur le ciel, le relief de ses arêtes blanches avec une précision et un fini accablant. Un peu de vent faisait envoler un corbeau qui retombait dans le lointain, et contre le ciel blanchissant, le lointain des bois paraissait plus bleu, comme peint dans ces camaïeux qui décorent les trumeaux des anciennes demeures. Mais d'autres fois se mettait à tomber la pluie dont nous avait menacé le capucin que l'opticien avait à sa devanture. Les gouttes d'eau, comme des oiseaux migrateurs qui prennent leur vol tous ensemble, descendaient à rang pressé du ciel. Elles ne se séparent point, elles ne vont pas à l'aventure pendant la rapide traversée. Mais chacune, tenant sa place, attire à elle celle qui la suit, et le ciel en est plus obscurci qu'au départ des hirondelles. Nous nous réfugions dans le bois. Quand leur voyage semblait fini, quelques-unes, plus débiles, plus lentes, arrivaient encore. Mais nous ressortions de notre abri car les gouttes se plaisent au feuillage, et la terre était déjà presque séchée que plus d'une s'attardait à jouer sur les nervures d'une feuille. Et suspendue à la pointe, reposée, brillante au soleil, tout d'un coup se laissait glisser de toute la hauteur de la branche et nous tombait sur le nez. Souvent aussi nous allions nous abriter pêle-mêle avec les saints et les patriarches de pierre sous le porche de Saint-André-des-Champs. Que cette église était française! Au-dessus de la porte, les saints, les rois chevaliers, une fleur de lys à la main, des scènes de noces et de ferrailles étaient représentées comme ils pouvaient l'être dans l'âme de Françoise. Le sculpteur avait aussi narré certaines anecdotes relatives à Aristote et à Virgile, de la même façon que Françoise à la cuisine parlait volontiers de Saint-Louis, comme si elle l'avait personnellement connu, et généralement pour faire honte par la comparaison, à mes grands-parents, moins juste. On sentait que les notions que l'artiste médiéval et la paysanne médiévale survivant au XIXe siècle avaient de l'histoire ancienne ou chrétienne, et qui se distinguaient par autant d'inexactitude que de bonhomie, ils les tenaient non des livres, mais d'une tradition à la fois antique et directe, ininterrompue, orale, déformée, méconnaissable et vivante. Une autre personnalité de Combray, que je reconnaissais aussi virtuelle et prophétisée dans la sculpture gothique de Saint-André-des-Champs, c'était le jeune Théodore, le garçon de chez Camus. Françoise sentait d'ailleurs si bien en lui un pays et un contemporain, que quand ma tante Léonie était trop malade pour que Françoise puisse suffire à la retourner dans son lit, à la porter dans son fauteuil, plutôt que de laisser la fille de cuisine monter se faire bien voir de ma tante, elle appelait Théodore. Or ce garçon qui passait, et avec raison, pour si mauvais sujet, était tellement rempli de l'âme qui avait décoré Saint-André-des-Champs, et notamment des sentiments de respect, que Françoise trouvait dû au pauvre malade, à sa pauvre maîtresse. Il avait, pour soulever la tête de ma tante sur son oreiller, la mine naïve et zélée des petits anges des bas-reliefs, s'empressant, un cierge à la main, autour de la Vierge défaillante. Comme si les visages de pierre sculptés, grisâtres et nus, ainsi que sont les bois en hiver, n'étaient qu'un ensommeillement, qu'une réserve, prête à refleurir dans la vie en innombrables visages populaires, révérend et futé comme celui de Théodore, enluminé de la rougeur d'une pomme mûre. Non plus appliqué à la pierre comme ces petits anges, mais détaché du porche, d'une stature plus qu'humaine, debout sur un socle comme sur un tabouret qui lui évita de poser ses pieds sur le sol humide, une sainte avait les joues pleines, le sein ferme et qui gonflait la draperie comme une grappe mûre dans un sac de crin, le front étroit, le nez court et mutin, les prunelles enfoncées, l'air valide, insensible et courageux des paysannes de la contrée. Cette ressemblance qui insinuait dans la statue une douceur que je n'y avais pas cherchée était souvent certifiée par quelques filles des champs venues comme nous se mettre à couvert, et dont la présence, pareille à celle de ces feuillages pariétaires qui ont poussé à côté des feuillages sculptés, semblait destinée à permettre, par une confrontation avec la nature, de juger de la vérité de l'œuvre d'art. Devant nous, dans le lointain, terre promise ou maudite, Roussainville, dans les murs duquel je n'ai jamais pénétré, Roussainville, tantôt, quand la pluie avait déjà cessé pour nous, continuait à être châtié comme un village de la Bible par toutes les lances de l'orage qui flagellaient obliquement les demeures de ses habitants, ou bien était déjà pardonné par Dieu le Père, qui faisait descendre vers lui, inégalement longues, comme les rayons d'un ostensoir d'autel, les tiges d'or effrangées de son soleil reparu. Quelquefois le temps était tout à fait gâté, fallait rentrer et rester enfermé dans la maison. Ça et là, au loin, dans la campagne, que l'obscurité et l'humidité faisaient ressembler à la mer, des maisons isolées, accrochées au flanc d'une colline plongée dans la nuit et dans l'eau, brillaient comme des petits bateaux qui ont replié leurs voiles et sont immobiles au large pour toute la nuit. Mais qu'importait la pluie, qu'importait l'orage? L'été, le mauvais temps n'est qu'une humeur passagère, superficielle, du beau temps sous-jacent et fixe, bien différent du beau temps instable et fluide de l'hiver, et qui, au contraire, installé sur la terre où il s'est solidifié en denses feuillages sur lesquels la pluie peut s'égoutter sans compromettre la résistance de leur permanente joie, haïssé pour toute la saison, jusque dans les rues du village, aux murs des maisons et des jardins, ses pavillons de soie violette ou blanche. Assis dans le petit salon où j'attendais l'heure du dîner en lisant, j'entendais l'eau dégouttée de nos marronniers. mais je savais que l'averse ne faisait que vernir leurs feuilles et qu'ils promettaient de demeurer là, comme des gages de l'été, toute la nuit pluvieuse. À assurer la continuité du beau temps, il avait beau pleuvoir, demain, au-dessus de la barrière blanche de Tansonville, onduleraient, aussi nombreuses, de petites feuilles en forme de cœur. Et c'est sans tristesse que j'apercevais le peuplier de la rue des Perchants, adressé à l'orage des supplications et des salutations désespérées. C'est sans tristesse que j'entendais au fond du jardin les derniers roulements du tonnerre roucouler dans les lilas. Si le temps était mauvais dès le matin, mes parents renonçaient à la promenade et je ne sortais pas. Mais je pris ensuite l'habitude d'aller ces jours-là marcher seul du côté de mes églises lavineuses, dans l'automne où nous dûmes venir à Combray pour la succession de ma tante Léonie, car elle était enfin morte, faisant triompher à la fois ceux qui prétendaient que son régime affaiblissant finirait par la tuer, et non moins les autres, qui avaient toujours soutenu qu'elle souffrait d'une maladie non pas imaginaire mais organique, à l'évidence de laquelle les sceptiques seraient bien obligés de se rendre quand elle y aurait succombé. Et ne causant par sa mort de grande douleur qu'à un seul être, mais à celui-là sauvage. Pendant les 15 jours que dura la dernière maladie de ma tante, Françoise ne la quitta pas un instant, ne se déshabilla pas, ne laissa personne lui donner aucun soin, et ne quitta son corps que quand il fut enterré. Alors nous comprîmes que cette sorte de crainte où Françoise avait vécu des mauvaises paroles, des soupçons, des colères de ma tante, avait développé chez elle un sentiment que nous avions pris pour de la haine et qui était de la vénération et de l'amour. Sa véritable maîtresse aux décisions impossibles à prévoir, aux ruses difficiles à déjouer, au bon cœur facile à fléchir, sa souveraine, son mystérieux et tout-puissant monarque, n'était plus. À côté d'elle, nous comptions pour bien peu de choses. Il était loin le temps où, quand nous avions commencé à venir passer nos vacances à Combray, nous possédions autant de prestige que ma tante aux yeux de Françoise. Cet automne-là, tout occupé des formalités à remplir, des entretiens avec les notaires et avec les fermiers, mes parents, n'ayant guère de loisirs pour faire des sorties que le temps d'ailleurs contrariait, prirent l'habitude de me laisser aller me promener sans eux du côté de mes églises, enveloppé dans un grand plaid qui me protégeait contre la pluie, et que je jetais d'autant plus volontiers sur mes épaules que je sentais que ces rayures écossaises scandalisaient Françoise, dans l'esprit de qui on aurait pu faire entrer l'idée que la couleur des vêtements n'a rien à faire avec le deuil, et à qui d'ailleurs le chagrin que nous avions de la mort de ma tante plaisait peu, parce que nous n'avions pas donné de grands repas funèbres et que nous ne prenions pas un son de voix spéciale pour parler d'elle, que même parfois je chantonnais. Je suis sûr que dans un livre, et en cela j'étais bien moi-même comme Françoise, cette conception du deuil d'après la chanson de Roland et le portail de Saint-André-des-Champs m'eût été sympathique. Mais dès que Françoise était auprès de moi, un démon me poussait à souhaiter qu'elle fût en colère. Je saisissais le moindre prétexte pour lui dire que je regrettais ma tante parce que c'était une bonne femme, malgré ses ridicules, mais nullement parce que c'était ma tante. Qu'elle eût pu être ma tante et me semblait odieuse, et sa mort ne me faire aucune peine, propos qui m'eût semblé inepte dans un livre. Si alors Françoise, remplie comme un poète d'un flot de pensées confuses sur le chagrin, sur les souvenirs de famille, s'excusait de ne pas savoir répondre à mes théories et disait « Je ne sais pas m'exprimer ». Je triomphais de cet aveu avec un bon sens ironique et brutal digne du docteur Percepied. Et si elle ajoutait « Elle était tout de même de la parenthèse, il reste toujours le respect qu'on doit à la parenthèse ». Je haussais les épaules et je me disais « Je suis bien bon de discuter avec une illettrée qui fait des cures pareilles ». Adoptant ainsi pour juger Françoise le point de vue mesquin d'homme dont ceux qui les méprisent le plus, dans l'impartialité de la méditation, sont fort capables de tenir le rôle, quand il joue une des scènes vulgaires de la vie. Mes promenades de cet automne-là furent d'autant plus agréables que je les faisais après de longues heures passées sur un livre. Quand j'étais fatigué d'avoir lu toute la matinée dans la salle, jetant mon plaid sur mes épaules, je sortais. Mon corps, obligé depuis longtemps de garder l'immobilité, mais qui s'était chargé sur place d'animation et de vitesse accumulée, avait besoin ensuite, comme une toupie qu'on lâche, de les dépenser dans toutes les directions. Les murs des maisons, la haie de Tansonville, les arbres du bois de Roussainville, les buissons auxquels s'adosse Montjouvin, recevaient des coups de parapluie ou de canne, entendaient des cris joyeux qui n'étaient les uns et les autres que des idées confuses, qui m'exaltaient et qui n'ont pas atteint le repos dans la lumière pour avoir préféré, à un lent et difficile éclaircissement, le plaisir d'une dérivation plus aisée vers une issue immédiate. La plupart des prétendues traductions de ce que nous avons ressenti ne font ainsi que nous en débarrasser, en le faisant sortir de nous sous une forme indistincte, qui ne nous apprend pas à le connaître. Quand j'essaie de faire le compte de ce que je dois, aux côtés de mes églises, des humbles découvertes dont il fut le cadre fortuit ou le nécessaire inspirateur, je me rappelle que c'est dans cet automne-là, dans une de ces promenades près du talus broussailleux qui protège Montjouvin, que je fus frappé pour la première fois de ce désaccord entre nos impressions et leur expression habituelle. Après une heure de pluie et de vent contre lesquels j'avais lutté avec allégresse, comme j'arrivais au bord de la mare de Montjouvin, devant une petite cahute recouverte en tuiles, où le jardinier de M. Vinteuil serrait ses instruments de jardinage, le soleil venait de reparaître et ses dorures lavées par l'averse reluisaient à neuf dans le ciel, sur les arbres, sur le mur de la cahute, sur son toit de tuiles encore mouillé, à la crête duquel se promenait une poule. Le vent qui soufflait tirait horizontalement les herbes folles qui avaient poussé dans la paroi du mur et les plumes du duvet de la poule, qui les unes et les autres se laissaient filer au gré de son souffle jusqu'à l'extrémité de leur longueur, avec l'abandon de choses inertes et légères. Le toit de tuiles faisait dans la mare, que le soleil rendait de nouveau réfléchissante, une marbrure rose à laquelle je n'avais encore jamais fait attention. Et voyant sur l'eau et à la face du mur un pâle sourire répondre au sourire du ciel, je m'écriai dans mon enthousiasme en brandissant mon parapluie refermé « Zut, 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 zut !» Mais en même temps, je sentis que mon devoir eût été de ne pas m'en tenir à ces mots opaques et de tâcher de voir plus clair dans mon ravissement. Et c'est en ce moment-là encore, grâce à un paysan qui passait, l'air déjà d'être d'assez mauvaise humeur, qui le fut davantage quand il faillit recevoir mon parapluie dans la figure. Et qui répondit sans chaleur à mes « Beau temps, n'est-ce pas ? Il fait bon marché. » Que j'appris que les mêmes émotions ne se traduisent pas simultanément dans un ordre préétabli chez tous les hommes. Plus tard, chaque fois qu'une lecture un peu longue m'avait mis en humeur de causer, le camarade à qui je brûlais d'adresser la parole venait justement de se livrer au plaisir de la conversation et désirait maintenant qu'on le laissât lire tranquille. Si je venais de penser à mes parents avec tendresse, et de prendre les décisions les plus sages et les plus propres à leur faire plaisir, ils avaient employé le même temps à apprendre une pégadille, que j'avais oubliée, et qu'ils me reprochaient sévèrement, au moment où je m'élançais vers eux pour les embrasser. Parfois, à l'exaltation que me donnait la solitude s'en ajoutait une autre que je ne savais pas en départager nettement, causée par le désir de voir surgir devant moi une paysanne que je pourrais serrer dans mes bras. Né brusquement et sans que j'eusse eu le temps de le rapporter exactement à sa cause, au milieu de pensées très différentes, le plaisir dont il était accompagné ne me semblait qu'un degré supérieur de celui qu'elle me donnait. Je faisais un mérite de plus à tout ce qui était à ce moment-là dans mon esprit, au reflet rose du toit de tuiles, aux herbes folles, au village de Roussainville où je désirais depuis longtemps aller, aux arbres de son bois, au clocher de son église, de cet émoi nouveau qui me les faisait seulement paraître plus désirables, parce que je croyais que c'était eux qui le provoquaient, et qui semblaient ne vouloir que me porter vers eux plus rapidement, quand il enflait ma voile d'une brise puissante, inconnue et propice. Mais si ce désir qu'une femme apparue ajoutait pour moi au charme de la nature quelque chose de plus exaltant, les charmes de la nature, en retour, élargissaient ce que celui de la femme aurait eu de trop restreint. Il me semblait que la beauté des arbres, c'était encore la sienne, et que l'âme de ses horizons, du village de Roussainville, des livres que je lisais cette année-là, son baiser me la livrerait. Et mon imagination, reprenant des forces au contact de ma sensualité se répandant dans tous les domaines de mon imagination, mon désir n'avait plus de limite. C'est qu'aussi, comme il arrive dans ces moments de rêverie au milieu de la nature, où l'action de l'habitude étant suspendue, nos notions abstraites des choses mises de côté, nous croyons d'une foi profonde à l'originalité, à la vie individuelle du lieu où nous nous trouvons. La passante qu'appelait mon désir me semblait être non un exemplaire quelconque de ce type général, la femme, mais un produit nécessaire et naturel de ce sol. Car en ce temps-là, tout ce qui n'était pas moi, la terre et les êtres, me paraissaient plus précieux, plus importants, doués d'une existence plus réelle que cela ne paraît aux hommes faits. Et la terre et les êtres, je ne les séparais pas. J'avais le désir d'une paysanne de mes églises ou de Roussainville, d'une pêcheuse de Balbec, comme j'avais le désir de mes églises et de Balbec. Le plaisir qu'elle pouvait me donner m'aurait paru moins vrai, je n'aurais plus cru en lui, si j'en avais modifié à ma guise les conditions. Connaître à Paris une pêcheuse de Balbec ou une paysanne de mes églises, c'eût été recevoir des coquillages que je n'aurais pas vus sur la plage, une fougère que je n'aurais pas trouvée dans les bois. C'eût été retranché au plaisir que la femme me donnerait, tous ceux au milieu desquels l'avait enveloppé mon imagination. Mais errer ainsi dans les bois de Roussainville, sans une paysanne embrassée, c'était ne pas connaître de ces bois le trésor caché, la beauté profonde. Cette fille, que je ne voyais que criblée de feuillage, elle était elle-même pour moi comme une plante locale, d'une espèce plus élevée seulement que les autres, et dont la structure permet d'approcher de plus près qu'en elle la saveur profonde du pays. Je pouvais d'autant plus facilement le croire, et que les caresses par lesquelles elle m'y ferait parvenir seraient aussi d'une sorte particulière, et dont je n'aurais pas pu connaître le plaisir par une autre qu'elle, que j'étais pour longtemps encore à l'âge où l'on n'a pas encore abstrait ce plaisir de la possession des femmes différentes avec lesquelles on l'a goûté, où on ne l'a pas réduit à une notion générale, qui les fait considérer dès lors comme les instruments interchangeables d'un plaisir toujours identique. Il n'existe même pas, isolé, séparé et formulé dans l'esprit, comme le but qu'on poursuit en s'approchant d'une femme, comme la cause du trouble préalable qu'on ressent. À peine y songe-t-on comme à un plaisir qu'on aura. Plutôt, on l'appelle son charme à elle, car on ne pense pas à soi, on ne pense qu'à sortir de soi. Obscurément attendu, immanent et caché, il porte seulement un tel paroxysme au moment où il s'accomplit les autres plaisirs, que nous causent les doux regards, les baisers de celle qui est auprès de nous, qu'il nous apparaît surtout à nous-mêmes comme une sorte de transport de notre reconnaissance pour la bonté de cœur de notre compagne et pour sa touchante prédilection à notre égard, que nous mesurons au bienfait, au bonheur dont elle nous comble. Hélas! C'était en vain que j'implorais le donjon de Roussainville, que je lui demandais de faire venir auprès de moi quelque enfant de son village, comme au seul confident que j'avais eu de mes premiers désirs, quand au haut de notre maison de Combray, dans le petit cabinet sentant l'iris, je ne voyais que sa tour au milieu du carreau de la fenêtre entr'ouverte, pendant qu'avec les hésitations héroïques du voyageur qui entreprend une exploration, ou du désespéré qui se suicide. Défaillant, je me frayais en moi-même une route inconnue et que je croyais mortelle. Jusqu'au moment où une trace naturelle comme celle d'un colimaçon s'ajoutait aux feuilles du cassis sauvage qui se penchait jusqu'à moi. En vain je suppliais maintenant, en vain tenant l'étendue dans le champ de ma vision. Je la drainais de mes regards qui eussent voulu en ramener une femme. Je pouvais aller jusqu'au porche de Saint-André-des-Champs. Jamais ne s'y trouvait la paysanne que je n'eusse pas manqué d'y rencontrer si j'avais été avec mon grand-père et dans l'impossibilité de lier conversation avec elle. Je fixai indéfiniment le pont d'un arbre lointain, de derrière lequel elle allait surgir et venir à moi. L'horizon scruté restait désert. La nuit tombée, c'était sans espoir que mon attention s'attachait comme pour aspirer les créatures qu'il pouvait recéler à ce sol stérile, à cette terre épuisée. Et ce n'était plus d'allégresse, c'était de rage que je frappais les arbres du bois de Roussainville, dans lesquels ne sortaient pas plus d'êtres vivants que s'ils eussent été des arbres peints sur la toile d'un panorama. Quand, ne pouvant me résigner à rentrer à la maison avant d'avoir serré dans mes bras la femme que j'avais tant désirée, j'étais pourtant obligé de reprendre le chemin de Combray, en m'avouant à moi-même qu'était de moins en moins probable le hasard qui l'eût mise sur mon chemin. Et si fût-elle trouvée d'ailleurs, eussé-je osé lui parler? Il me semblait qu'elle m'eût considéré comme un fou. Je cessai de croire partagé par d'autres êtres, de croire vrai en dehors de moi, les désirs que je formais pendant ces promenades et qui ne se réalisaient pas. Ils ne m'apparaissaient plus que comme les créations purement subjectives, impuissantes, illusoires, de mon tempérament. Ils n'avaient plus de lien avec la nature, avec la réalité, qui dès lors perdait tout charme et toute signification, et n'était plus à ma vie qu'un cadre conventionnel. Comme l'est à la fiction d'un roman le wagon sur la banquette duquel le voyageur le lit pour tuer le temps.